La semaine dernière, j'étais à l'église de pâturage, dans mon coin reculé du Borinage, et mon message était basé sur le psaume 73. Et je vous lis le dernier verset, la version second 21, psaume 73, verset 28. Psaume 73, verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Et je poursuivrai pour cette méditation de ce matin par une lecture dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 12, verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était terrible. Comme Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Je vais essayer un peu de décortiquer ce passage, et car Dieu revient toute la gloire de nous avoir transmis sa parole. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes réunis aujourd'hui pour notre assemblée générale, une sorte de bilan de ce qu'on a vécu, peut-être une préparation aussi à un futur inconnu. Il est évident et clair que le christianisme belge, catholique, protestant, évangélique, tout confondu est dans un tournant, peut-être même un grand creux de la vague, peut-être suivant ce que l'on entend, ce que l'on veut entendre ou ce que l'on veut penser. Alors devant cette situation, on pourrait se poser pas mal de questions. Mais que fait Dieu de son Église? C'est sûrement la fin des temps. Qu'est-ce que nous devons faire? Pourquoi est-ce que Dieu n'envoie pas des jeunes ou rebooste l'Église? Pourquoi pas le réveil? Et je viens d'apprendre la semaine dernière qu'une des églises protestantes du Borinage, datant du réveil de 1930, va être vendue. C'est une des plus grandes églises de la région, sans vendue parce que, par manque de moyens pour l'entretenir. Face aux événements qui nous touchent, on peut réagir différemment. Chaque personne réagit suivant les messages que nous entendons, que nous captons. Actuellement, avec les élections, on ne sait pas quoi faire, hein. On entend ça. Mais c'est un peu la même chose avec les églises, avec ce que nous entendons. Et qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous allons faire? Et le psaume 73 nous convie à nous confier en Dieu, sans regarder aux autres qui réussissent. Si vous lisez tout le psaume 73, il y a un tiers qui parle du méchant qui réussit. Mais regarde à Dieu. Ça, c'est le principal. Et je vous lis, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Dans ce verset, l'auteur déclare que Pour lui, s'approcher de Dieu, c'est son bien, c'est son bonheur. Il connaît Dieu. Il sait de quoi il arrivera. C'est son seul refuge. Et en déclarant qu'il va raconter les œuvres que le Seigneur a faites, il exprime sa foi en ce Dieu qui est au-dessus de tout. Et il ne doute pas de l'éternité. Il a un espoir, même si tout autour, il n'y a rien qui fonctionne. Par l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il nous est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. » Je ne sais pas, mais on dirait à l'école, on dit la palisse, on aurait dit autant. Il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En français courant, « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » C'est une évidence. Et un peu plus loin, le texte que nous avons lu, nous trouvons Hébreux 12, 18, dans le premier verset qui commence comme ceci. C'est le contraire. Ah, vous ne vous êtes pas approché. Et vient ensuite toute une description de la présence de Dieu sur le mont Sinaï, nuées, tempêtes, ténèbres, retentissements, trompettes, voix, etc. Il est vrai que la situation est effrayante. Et le verset 21 nous parle d'un spectacle horrible. Et la version en français courant nous dit un spectacle terrifiant. Personne, à l'époque, ne pouvait toucher la montagne. Même pas un animal. Moïse lui-même, qui parlait face à face avec Dieu, était épouvanté et tout tremblant. Il est un fait. Dieu est saint. C'est pas n'importe qui. C'est pas le pote qu'on frappe sur l'épaule, comme disait l'autre fois Daniel. C'est le Dieu que l'on approche avec respect. Ah oui, c'est notre papa. Mais il a droit au respect. Et dans ce récit, le peuple n'était pas autorisé à s'approcher. Il devait garder une certaine distance. De même que le sacrificateur au temple de Jérusalem n'était autorisé que d'entrer dans le lieu saint et exceptionnellement, une fois l'année, dans le lieu très saint, la présence suprême de Dieu sur terre, c'était ça. Jésus, lui, en venant nous rencontrer, a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. Il a ouvert la voie pour s'approcher sans angoisse, sans terreur, sans crainte, mais dans la crainte respectueuse que le Seigneur mérite. Et puis dans notre passage que nous avons lu, à partir du verset 22 et jusqu'au verset 24, l'auteur de l'Épître nous montre sept rencontres que le chrétien fait quand il s'approche de Dieu. Et je vais vous les citer. Cette rencontre que nous pouvons faire. Nous venons à la cité de Dieu, mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion et de la cité de Dieu. La montagne de Sion était le lieu où David avait fait le centre religieux de son royaume en y apportant l'arche de l'Alliance. Et plus tard, quand Salomon y bâtit le temple, Sion, ou Jérusalem, est devenu synonyme de l'habitation de Dieu sur terre. En Christ, en contrepartie, nous approchons de la céleste Jérusalem. Jérusalem spirituelle, d'en haut. Il est évident, Dieu est esprit. Et c'est la Bible qui nous dit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes déjà, maintenant, en esprit, citoyens de la cité céleste. Et nous pouvons jouir de ces privilèges. Nous sommes déjà en Christ. Et comme j'ai déjà dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Deuxièmement, notre deuxième rencontre, nous venons en contact avec les anges. Vous vous êtes approchés de la Jérusalem céleste avec myriades d'anges qui chantent. Moïse nous décrit que les saintes myriades ont assisté à la remise de la loi, dans Deutéronome 33, verset 2. Et de Daniel, nous apprenons que 1 000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en la présence de l'Ancien des Jours, Dieu lui-même. Dans Daniel 7, 10, David, dans le psaume 68, 18, nous décrit le nombre de chars de l'Éternel par milliers et par milliers. Et lorsque Jésus naîtra, une immense chorale de l'armée céleste chantera en la présence des bergers. Luc 2, 13. Les anges sont partout, puissants, flamboyants, ils sont au service de Dieu, et comme dit Hébreux 1,14, ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges existent. Troisièmement, nous rencontrons en contact, nous entrons en contact avec les autres croyants, ceux de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Autrefois, c'était le premier-né qui, par son droit d'aînesse, était le prioritaire, ainsi de tout, et même de l'héritage. En Jésus, qui est par excellence le premier-né inscrit dans les cieux, nous le sommes aussi par notre union avec lui. Tous les droits de l'héritage nous reviennent également. Et c'est Paul qui dit dans Romains 8, 17, qui dira « Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ ». Nous ne faisons pas que nous rencontrer entre nous. Nous sommes membres les uns des autres, égale part. Nous aurons la même part. Nous hériterons le même salut. Quatrièmement, nous venons à Dieu. Dieu juge de tous. Juge de tous, pas seulement les chrétiens. Il est le Dieu de tout le monde. Ça, il y en a qui n'y croient pas. Et nous venons avec crainte et respect parce qu'il est le juge, justement. Mais nous n'avons pas, nous, à craindre ce juge parce que Jésus a porté notre condamnation. Nous n'avons plus à avoir peur du jugement ni des peines que nous pourrions courir suite à nos fautes ou à nos péchés. Christ a tout porté. Il faut y croire seulement. C'est l'évidence. C'est là notre joie. Cinquièmement, nous venons devant l'Église céleste qui nous a devancés. Il est écrit « Des esprits des justes parvenus à la perfection ». Bien qu'ils soient au ciel, nous sommes solidaires de ceux qui sont passés avant nous. Abraham, Moïse, David, Paul et toute une série de témoins, disciples morts vivants éternels en Jésus-Christ. Sixièmement, nous venons à Jésus. Jésus, seul médiateur de la nouvelle alliance, c'est par Jésus que nous sommes libres de tout, et que toutes les promesses s'accomplissent pour nous. Il est la source d'eau vive. Il est en nous et nous sommes en lui. Et septièmement, nous parvenons au pardon à cause du sang versé et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel, tué par son frère, premier meurtrier de l'humanité, criait vengeance et appelait à la condamnation. Le sang de Christ proclame que nous sommes pardonnés. C'est cette approche, mais ne sont pas que pour moi tout seul, elles sont pour l'Église, elles sont pour vous tous, elles sont pour nous tous. Tous et pour tout et pour le corps de Christ. C'est une réalité. Et l'Écriture dit que par l'Église, nous nous sommes approchés maintenant de cette merveille du monde spirituel. La cité de Dieu, les myriades d'anges, les autres croyants, Dieu juge, mais compatissant, le Dieu de l'Église triomphante, nous sommes rapprochés de Jésus, nous sommes rapprochés du pardon. Alors si nous nous rendons compte de ces privilèges que nous avons en tant que chrétiens, si on n'est pas convaincu, rien d'autre ne pourrait nous convaincre. Et si nous sommes convaincus, alors explosons de joie. Et surtout, en Église locale, soyons assurés que nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte. Et pour terminer, si nous relisons le verset 25 à 29 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, que nous avons lu, il déclare « La terre est ébranlée, l'Église est secouée, mais Dieu parle. » J'ai marqué « Dieu parle peut-être un peu fort. » Et souvenez-vous qu'il n'y a pire sourd que celui qui ne veut entendre. Verset 25, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu lui-même. Alors si Dieu ébranle la terre et son Église pour un temps, c'est pour justement montrer son royaume inébranlable, afin de lui rendre un culte agréable avec piété et crainte. Alors, que nous puissions, nous, nous ressourcer ensemble et dans l'unité. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci de tout ce que tu as fait pour nous. Nous avons tellement l'air si petits, nous les hommes vapeurs, devant toi. Seigneur, nous voulons nous incliner devant ta grandeur. Et simplement, avec nos mots, te dire merci, mais surtout le dire avec notre cœur. Mais en toute chose, qu'à toi revienne toute la gloire. Amen.